20h, 21h. Allô l'imam avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ça commence déjà à me manquer, voyez, cette ambiance où les gens viennent, circulent dans les studios, se parlent, voilà.
Une dynamique extraordinaire.
Ah ouais, c'est, on disait ça hier soir, hein, Imam Abdelali. C'est vrai que tous les soirs, on vit des soirées incroyables, avec beaucoup de rencontres, de partage. C'est
extraordinaire.
Alors, des rencontres ce soir. Normalement, il y a une auditrice qui est allée nous acheter du poulet, Imam Abdelali.
Ouais, machin.
Qui est allée le faire rôtir à l'atelier du poulet chez
pour
Boucher.
Ce soir,
ouais, pour
bah,
ce
hier.
Soir. Non, pour ce soir, chez Boucher Wadi, et qui va nous les apporter.
Oui. Donc, laisse-moi d'abord saluer quand même les auditeurs, et te saluer, toi d'abord, salamu alaykoum wa barakatou, saluer mon mentor.
Ah, carrément.
Ça.
Moi, je m'attendais à ton acolyte, au moins, tu vois, au même
niveau.
Non,
je cherche quelque chose qui
là.
Tout à l'heure, comment tu étais d'une pertinence sur l'émission Ramadan & Co. Je te félicite, la philosophie de la permaculture, etc.
Il écoute, hein,
très bien. Non, j'étais sur le chemin, j'écoutais Beurre FM.
Voilà.
Si moi, j'écoute pas Beurre FM, pourquoi on va dire aux autres d'écouter Beurre FM? Lima taqulu ma la taf'alun.
Atamuruna an-nas bil birri wa
tansawna. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu.
Vous pouvez traduire là pour les pour le non-arabisant.
Trois versets coraniques qui dit qu'il faut faire ce que l'on dit. Et pas dire simplement.
Quoi dites-vous ce que vous ne faites pas?
C'est
une grande abomination auprès d'Allah de dire ce que vous ne faites pas.
Le maqt, c'est l'abomination. J'aurais plutôt dit radab, sart, ou bien colère.
Ouais.
Kabura maqtan, puisque kabura, on ne va pas dire, est grande l'abomination de Dieu. Puisqu'on dit kabura maqtan indallah, auprès de Dieu. Une abomination auprès de Dieu. J'aurais dit plutôt une colère, une réaction de mécontentement excessif, on va dire amplifié. Kabura, puisqu'il y a l'expression de le fait de grandir, la colère qui grandit auprès de Dieu. Kabura, maqtan indallah. Tu vois, c'est important là, d'être dans la traduction méticuleuse. Abominable, ça peut, effectivement, parce qu'on a plein de superlatifs qui sont effectivement dans le même sens, en effet.
27e jour, dites donc, déjà.
Hein. Il est en forme.
Je sens plus mon dos, je suis fatigué, je suis naze. Hier, à Sahta al-Fajr,
Et le soir, on ne peut pas le coucher.
Le lendemain de l'Eid Qadr, c'est toujours...
difficile.
Oh là, c'est difficile. En plus, subhanallah, c'est une journée blindée, avec plein de choses à faire. Je suis même venu à la radio, parce qu'on a fait, il a fallu qu'on corrige certaines bricoles. Et donc, il fallait que je vienne à la radio. Bah, c'est bien.
Ben voilà, mais c'est votre marathon. Ismaël Mounir aussi fait un marathon pendant le mois du Ramadan. C'est vrai que les imams, vous êtes quand même drôlement félicités. Et merci à vous du temps que vous consacrez à la communauté. Parce que, vous avez des emplois du temps, mais de ministres, là, il faut le dire, hein, tous. Ouais.
Bon, parce que vous êtes quand même pas abusé, mais on va dire c'est vrai que
j'abuse pas. Si vous répondez au téléphone 15 heures par jour,
ça,
Ismaël Mounir, vous faites combien de déplacements en un mois?
Ah, je sais pas, mais je crois que j'avais compté pas loin de 90.
Pendant le Ramadan?
Mais oui.
En un mois, c'est trois par jour.
C'est le marathon, c'est pour ça. Plus la radio, les chroniques.
Même moi, à une époque, quand j'avais ton âge, Smail, je me déplaçais pas mal, effectivement,
non,
pendant le Ramadan.
90, une soixantaine de déplacements.
Bah, ça fait quand même deux fois par jour. Ça fait plus de, deux fois par jour.
La Belgique, tout ça. Enfin,
ouais. Ah oui, en plus, la Belgique, c'est pas des petits déplacements.
Produire les vidéos pour mettre sur Facebook tous les jours, les défis organisés.
Si au moins dans 60 mosquées, on a écouté la sagesse de Smaïl Mounir, c'est formidable. Je peux que être content du travail de la relève qui est là.
J'ai bien fait de venir ce soir. Hein.
Ouais. 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 En plus, il y a à manger.
Ah bah, alhamdoulilah.
C'est magnifique. Allez, tiens, on va à Grenoble. Et c'est Nasser qui nous appelle au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan, Nasser.
Oui, salam alaikum avant toute chose,
salam
pour vous, et je vous souhaite un bon mois de Ramadan aussi, qu'Allah il accepte vos doigts et vos bonnes œuvres.
Merci.
Moi j'avais une question, c'est comment ça se fait que au jour d'aujourd'hui on est toujours encore, on a toujours des différences sur le jour de doute pour débuter et pour finir le Ramadan, parce que cette année si j'ai bien compté, ça va faire la cinquième année qu'on va faire 29 jours. Bon, et pour moi, je me pose des questions. Je me dis, c'est pas normal qu'on fasse autant de mois de Ramadan à 29 jours, alors que normalement, ça varie entre 29 et 30. Après, ce qui pose problème,
Et ça, pour toi, c'est vraiment le problème des musulmans aujourd'hui? Tu crois que c'est ça le problème des musulmans?
C'est-à-dire que déjà hier, on a pu entendre l'ancien
certain temps. Est-ce qu'on a au moins jeûné ensemble 28 jours? Ensemble. Il n'y a pas un qui a jeûné Sha'ban, un autre qui a jeûné Rajab, un autre qui a jeûné Dhul-Qa'da. On a tous bien jeûné Ramadan. Et puis, vous focalisez sur le premier et le dernier. Yom Shek. Hein, les ulama ont dit, les kulli baladin ru'yato. Chaque pays, il a son matla. Il a sa propre vision oculaire, sa propre. Mais le reste du mois, les 28 autres jours, on est bien ensemble. Et vous voyez la petite bête, simplement. Vous ne voyez pas le gros tronc d'arbre là, qui unit les musulmans et qui rassemble tout le monde. Hein, le gros paquet de jours qui rassemble tous les musulmans. Et vous focalisez sur un premier ou un dernier jour. C'est pas d'importance.
Je m'entends bien, mais après, il y a un décalage pour le jour d'Arafat et pour le jour du Hajj.
Alors, attends. Toi, tu mélanges entre le début et la fin du Ramadan et le début du mois de Dhul-Hijjah. Hein. Déjà, le mois de Dhul-Hijjah, c'est moins compliqué parce que c'est vrai, on peut se tromper le premier jour, mais le deuxième, le troisième, à un moment donné, avec la vision du croissant lunaire, on sait exactement déterminer quel jour on est. C'est même arrivé une année où est-ce que en Arabie Saoudite, ils s'étaient trompés et ils se sont eux-mêmes auto-corrigés. Au bout du septième jour, ils ont vu qu'effectivement, ça n'était pas une lune de sept jours, mais bien une lune de six jours ou huit jours, je ne sais plus c'était quoi l'erreur, à ce qu'ils avaient commencé plus tôt ou plus tard. Et ils avaient accepté de se corriger parce qu'au fur et à mesure que les jours passent, forcément, les choses se distinguent et se démarquent. Et donc, alhamdoulilah, pour moi, Eid al-Adha et l'Arafat qui précèdent, pour moi, il n'y a pas de souci. Le souci, effectivement, c'est le début du Ramadan, parce que si toi, tu débutes, soit tu débutes pas, soit tu termines, soit tu termines pas. Et cette année, Inch'Allah, certes, on n'a pas tous commencé au début, puisqu'on a eu un conseil théologique des musulmans de France qui a décrété le Ramadan le mercredi, et un conseil français du culte musulman de France réuni à la mosquée de Paris qui a débuté le Ramadan jeudi. Bon, c'est vrai que la grande majorité des mosquées et des associations musulmanes suivent le conseil français du culte musulman, ce qui fait qu'une grande majorité des musulmans ont jeûné ensemble. Donc, c'est pas important. Et par contre, pour ce qui est la fin du Ramadan, il y a une très grande, forte probabilité que l'Eid, ça soit vendredi, hein, donc, et que nous jeûnions effectivement 29 jours. Et ceux qui ont commencé mercredi, eux, vont jeûner 30 jours. C'est pas grave. Mais c'est mouchkil. Ce qui compte, c'est qu'on a jeûné tous les autres jours ensemble. Allah Iberk. Rien que nous, à Beurre FM, l'ambiance conviviale, la dynamique spirituelle, l'ambiance, la solidarité, le sens de l'hospitalité, le sens de du partage, c'est extraordinaire, c'est des moments. Et un tout mal, vous voyez la petite bête qui ne va pas. Alors que tout était, mashallah, alhamdulillah.
Alors, Ismaël Mounir.
Après, juste par rapport, moi, ce que j'ai entendu dans la question, donc je partage parfaitement ce qu'a dit mon frère, Cheikh Abdel Ali, c'est que l'autre frère, notre auditeur, il nous dit que ça fait plusieurs années qu'on a jeûné 29 jours. Déjà, il me semble que dans les 5 dernières années, il y a eu des 30 jours. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quand bien même les 5 dernières années, on a jeûné 29 jours, fiqhiyan, il n'y a aucun problème d'un point de vue juridique. Donc, pourquoi aller chercher des problèmes là où il n'y a pas de problème?
Voilà, tout à fait.
Voilà Nasser.
Et je rappelle que pour moi, le jour du chèque, le jour du doute, c'est un rite. Ça fait partie des sha'a'ir. Regardez, s'il n'y avait plus ce doute-là, tout le monde débuterait et terminerait le ramadan, on ne le verrait même pas arriver, même pas partir. Alors que là, tout le monde est aux aguets à savoir qu'est-ce qu'il sait quand maintenant. Tout le monde sait quand commence, tout le monde est là à savoir quand. Tout ce débat autour du début et de la fin. Moi, je trouve ça formidable. Je sais pas, moi, il y en a qui voient ça mal d'un mauvais œil. Moi, au contraire, c'est une bonne chose. Ça permet de marquer le coup, ce ramadan qui se fait désirer et qui marque le coup et qui se dit, voilà, j'arrive ou je n'arrive pas. Attendez, vérifiez, on va voir, on va attendre. Et regardez, le début du ramadan, combien de temps ont consacré ces théologiens à la mosquée de Paris pour décréter le ramadan jeudi et non pas mercredi. Ça a pris beaucoup de temps.
Merci Nasser pour votre question. Direction Saint-Étienne. Élie nous appelle au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Élie.
Bonjour.
Bonjour, Élie. T'as une petite voix, toi.
Est-ce que je peux réciter une sourate de Coran?
Oui, tu peux.
Ok.
C'est quand tu veux.
Je vais la réciter.
Attends, juste connaître ton âge. Tu as quel âge, Élie?
6 ans et demi.
Masha'Allah, Allah Ibarak. Allez, vas-y, on t'écoute.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kolaudu Rabin Falak, Min Sherry Mahalak, Wamin Sherry Rasikin Itawakaba, Wamin Sherry Nafafati Filoket, ومن شر حاسد إذا حسد.
ما شاء الله، الله يبارك، الله يبارك،
الله يبارك فيك،
الله يحفظك ويجعلك إن شاء الله ذرية صالحة ويجعلك من الصالحين المصلحين. كالله يفاز دو توان غران توم إن شاء الله. Au service de l'humanité, pour la paix, pour l'amour, Inch'Allah. Et que tes parents soient récompensés pour tout le travail qu'ils font à travers ton éducation, Inch'Allah.
Et qu'Allah fasse de toi une personne qui fait partie des gens du Coran.
Inch'Allah. Hamalat al-Qur'an.
Car il a été dit, Dieu, le prophète dit, les gens du Coran sont les gens, une catégorie spéciale, qui sont spéciales avec Allah, subhanahu wa ta'ala.
Et je pourrais même être plus précis que spécial, puisque ça pourrait être... Peut-être confusion. Qu'est-ce que c'est que cette spécificité? Bah, c'est la noblesse.
Exactement.
Le prophète dit Ashrafu ummati hamalat al-Qur'an. Les plus nobles de ma communauté, ce sont ceux qui mémorisent et qui portent le Coran. Et là, hamala, c'est pas que porter dans le sens mémoriser, mais ce sont les porteurs qui le mettent.
Préserver l'essence.
Voilà.
Par le comportement.
Voilà. Qui le mettent en œuvre dans leur comportement et qui le vivent au quotidien. Naam, Inch'Allah. La hafdak a Eddy. C'est Eddy ou Mehdi?
Eli.
Attends, j'ai pas entendu.
Hani.
D'accord. Mashallah, Allah
yebarak. Merci pour ton appel, Hani.
Merci. Assalamualaikum.
Merci, mec.
Chaynaise, et on va en Corse, au 01 53 48.
Hani qui se traduit par serein.
Serein.
Quelqu'un qui est serein.
C'est bien.
Hani.
Et Chaynaise, vous traduisez comment?
Chaynaise, ce n'est pas un nom arabe. C'est un nom d'origine perse.
D'accord. Chaynaise, vous êtes là?
Oui, Chaynaise, oui.
Bonsoir, bienvenue. Bon ramadan, Chaynaise. On vous écoute.
Oui, je voudrais demander une question pour l'imam.
Oui.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Je suis بنتي دوزات معايا رمضان، كتسكن وحدها مي كتفطر معايا. بغيت نسولك على الفطرة، واش انا اللي نخرجها عليها ولا تخرجها وحدها ولا
هي تسكن بوحدها عندها دارها يعني؟
هي ساكنة في الدوزيام وانا هي في التروازيام وانا في الدوزيام وليني كتفطر عندي.
ولكن هي ساكنة بوحدها ولا عندها رجلها؟ اللي ماغيي راه في
الديفورس.
مي اسكو لا دي زونفون؟
نو
با دونفون. Elle vit toute seule et en instance elle est séparée de son mari, c'est ça?
Ouais.
Alors c'est à votre bon vouloir, elle soit elle verse pour vous ou vous versez pour elle. Ou que chacun verse chacun pour soi-même, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de contrainte là-dessus.
D'accord.
C'est vous qui voyez.
D'accord. Deuxième question.
Excusez-moi, elle travaille. Alors,
oui.
elle a un salaire.
Oui.
Ben, normalement, elle paye pour elle-même, mais voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin de...
D'accord, parce qu'elle a passé le ramadan chez moi,
je ne sais pas d'où vient cette idée reçue, genre, oh là là, plein de fois, on pose la question. À partir du moment où on mange chez une personne... On se doit de s'acquitter de la zakat al-fitr de la personne qui a été l'invité.
C'est d'où ça vient? C'est parce qu'en fait, le chef de famille va payer pour tous les membres de son foyer.
Ouais, mais donc, il n'est pas membre du foyer, lui.
Je sais, mais ils font un kries comme ça. Ils se disent
analogie.
Comme il a passé fitr indi, donc il faut que je paye pour lui.
Non, mais là, il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que c'est sa fille. Donc, هل هي ممن يجب عليها نفقتها? Est-ce qu'elle a ce devoir de prise en charge? La réponse est oui, effectivement, puisqu'il y a un devoir de solidarité. Mais comme la fille elle-même travaille, qu'elle est autonome financièrement, elle peut... C'est pour ça que j'ai dit, j'ai donné une certaine largesse. Vous devez la payer. Qui la paye, c'est à vous de voir, comme vous voulez. La D'accord. fille qui paye pour la mère qui paye pour la fille. Hein, il y a un devoir de solidarité réciproque, de l'ascendant au descendant et du descendant vis-à-vis de l'ascendant.
D'accord. La deuxième question, s'il vous plaît. Moi, je suis une femme âgée, j'ai 65 ans et je suis malade, je ne peux pas me baisser et tout. Je voudrais faire Salah. Est-ce que je peux faire l'Hajara Tayammum?
Tayammum?
Oui, Tayammum.
Mais le Fajr, ou, c'est toutes les prières ou l'arrêt le Fajr?
Là, toutes les prières. Je n'arrive pas à me baisser. Je suis malade.
Vous baissez, mais pourquoi vous avez besoin de vous baisser?
Pour faire les
ablutions. Ah, au niveau des pieds, pour laver les pieds?
Voilà, tout à fait.
D'accord. Est-ce que vous avez une baignoire?
Oui.
Bon, est-ce que vous pouvez rentrer dans votre baignoire? Eh bien, comment vous faites alors? Vous n'utilisez jamais votre baignoire?
Non.
Qui fait un non, madame? Vous ne rentrez pas dans la baignoire, jamais?
Non.
Donc, vous ne vous lavez pas le corps?
Non,
attendez, mais c'est important de savoir, Philippe, je suis désolé. Excuse-moi d'insister.
Mais il y a les grandes toilettes.
Oui, attends, vous vous lavez à l'extérieur de votre
toilettes.
Baignoire, si j'ai bien compris.
Oui, j'ai la baignoire, mais j'ai une autre douche... par terre.
D'accord.
La baignoire, je la dis.
Vous avez une douche par terre. Donc, vous pouvez mouiller vos pieds directement en arrosant vos pieds. Vous pouvez le faire, ça.
Oui.
Bon, est-ce que vous avez une chaise? Vous pouvez mettre un tabouret et vous asseoir au niveau de votre baignoire, de votre douchette, là où il y a la douche, et puis utiliser le fait que vous soyez déjà baissé, grâce à la chaise, pour tout simplement arroser votre pied et vous assurer que toutes les parties du pied soient bien, bien mouillées par l'eau, et, y compris la cheville. Vous incluez la cheville dans ce lavage. Et après, vous éteignez le robinet, et puis c'est bon, vous avez fait vos ablutions. Et si y a le problème, t'as agréable pour laver les pieds, c'est ça?
Non, les pieds et tout, parce que je tremble. Je tremble.
Vous tremblez.
Oui, voilà, mes mains. Et j'arrive pas. Quand je sors sur le fauteuil roulant, j'arrive.
Ah, vous utilisez une chaise roulante, vous avez une chaise roulante?
Oui.
D'accord, ok. Écoutez, faites au mieux. En principe, on est censé faire ses ablutions avec de l'eau, dans la mesure du possible. Si ça devient impossible, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nul, Dieu n'impose à quiconque ce qu'il est capable de faire. D'accord?
Voilà.
Fattakullaha ma stata'atum. Craignez Dieu dans la mesure du possible.
Merci pour votre question, Chenez. On prendra d'autres appels dans un instant. Si vous voulez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun, c'est Allo l'imam, jusqu'à 20h au 01 53 48 3000.
Allo l'imam revient dans un instant. Beurre FM, 20h, 21h. Allo l'imam avec Philippe Robichon.
Voilà, on a deux imams ce soir avec nous. L'imam Abdelali à gauche, si vous avez la stéréo, l'imam Ismaël Mounir. Et puis nous avons été rejoints par Linda, qui est une auditrice, voilà, qui a envoyé un mail, l'imam Abdelali, qui a dit qu'il voulait venir nous rejoindre. Et alors, elle est venue avec ses poulets, elle. Il y a trois poulets. C'est au cas où vous n'avez pas assez à manger.
Ouais, parce que moi, il m'en faut au moins.
Facile. Facile.
Facile.
Un et demi. Facile.
Non. Ah, tu vois, j'ai
sans les plumes.
Pas parlé de quantité. Une bonne cuisse.
Une bonne cuisse.
Voilà, ça suffit.
Bonsoir, Linda.
Bonsoir Philippe.
Voilà et bienvenue. Donc voilà, vous êtes dans les studios de Beurre FM. D'ailleurs, si vous voulez venir, encore 2-3 jours pour les auditeurs, vous pouvez venir comme Linda l'a fait ce soir.
Je confirme, c'est possible.
Hein, c'est simple, c'est super simple en fait.
Très simple.
Ah, moi aussi, j'ai ramener les poulets aussi. Moi aussi ce
j'ai
soir.
Pris ma voiture.
Tu vas ramener les poulets aussi?
Ah ben évidemment.
On peut pas faire, parce que sinon moi je veux bien demander, j'ai mes goûts aussi. Hein.
Ouais. Ah mince, qu'est-ce que vous voulez d'autre?
Non, je sais pas, découvrir d'autres cuisines. Demain, moi je suis beaucoup dans la découverte.
Demain c'est comorien.
Ben voilà.
Tu m'as dit que c'était indonésien.
Non mais attends,
alors,
l'Indonésie c'est jeudi.
Ah d'accord.
Bon, oui, parce que demain c'est les Comores.
Parce que Jima vient demain et elle m'a dit si c'est indonésien je viens.
Bah c'est comorien, mais c'est bien comorien. C'est
vachement... Bon bah écoute.
Ouais, bon, chacun vient avec qui peut.
Moi allez. Aussi, j'ai mon invité qui arrive là, il s'appelle Nora et nous apporte des bourreks, des samoussas.
Ah, bah ce soir, c'est bien. Ça va être magnifique. Inch'Allah. Alors, nous allons direction Meudon. Et c'est Sonia qui nous appelle de Meudon. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Sonia.
Allo l'imam.
Allo, salam alaikum. Marhaban ourti.
Moi, alaikum salam, rahmatullah. Oui, donc ma question est très simple. J'aimerais savoir quel est le statut de l'islam par rapport aux relations avec sa belle-mère.
Les relations sont des relations de respect, réciproques, bien sûr, pas simplement dans un sens. Soyez plus précise, vous avez des soucis avec votre belle-mère, c'est ça?
Pas spécialement, mais c'est une belle-mère un peu imposante, entre guillemets. Donc,
une belle-mère toxique, en fait, c'est ça?
Je dirais pas ça parce que c'est méchant de dire ça, mais un peu imposant, effectivement.
En tout cas, on ne doit pas à sa belle-mère ce que l'on doit à sa mère. Ça, c'est sûr, c'est pas la même chose. Mais on lui doit quand même le respect. Mais on peut tout simplement, on peut très bien rappeler à l'ordre sa belle-mère si, effectivement, elle dépasse ses prérogatives de belle-mère et qu'elle devient trop étouffante. Parce qu'effectivement, le fils qui, lui, a un devoir immense vis-à-vis de sa mère, et une relation sacrée entre le fils et sa mère, entre la fille et sa mère, ce n'est pas la même chose que pour la belle-fille. La belle-fille n'a pas cette même relation qu'elle doit avoir avec sa mère qu'avec sa belle-mère. Ce n'est pas la même chose. Avec sa belle-mère, on peut se permettre de la rappeler à l'ordre, avec bien sûr beaucoup de sagesse et beaucoup de respect. Mais voilà. Alors que le fils, c'est encore plus délicat, c'est encore plus sensible. Donc n'hésitez pas à vous asseoir calmement, entre quatre yeux, sans blesser, sans avoir l'intention de faire du mal ou de nuire ou d'insulter ou de manquer de respect. Vous dites voilà, ça va pas. qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème-là ? Alors, excuse-moi, je ne recommencerai pas, voilà, autour de la page. Mais il faut faire ça avec méthode et avec beaucoup de sagesse et beaucoup de finesse.
D'accord, très bien. Écoutez, merci.
Je vous en prie.
Merci Sonia. La région toulousaine, et c'est Blagnac qui nous appelle, c'est Fatima. Bienvenue.
Allô, bonsoir.
Ah, ou Fatna, pardon.
Fatna. Oui,
bonsoir, bienvenue, bon ramadan, Fatna.
Ça veut dire quoi, Fatna, Philippe?
Fatna, ça fait longtemps que je vous appelle et que j'écoute l'imam Abdel Mamoun et Ismaël Mounir, que je les suis partout sur les services sociaux, en fait.
Les services sociaux.
Les réseaux, on va dire réseaux sociaux.
Non, c'est un service social, je suis d'accord. Vous avez bien trouvé, Fatna.
Réseaux sociaux. Non, il n'y a pas de problème. Écoutez, moi, je suis en tout cas ravi de vous entendre. Qu'Allah vous bénisse.
D'accord, merci beaucoup. Ma question, j'ai deux questions. Une question de mon mari qui ne fait pas Ramadan parce qu'il travaille sur Avignon.
Ah, donc il est voyageur, vous voulez dire, c'est ça?
Oui, il travaille, il est poseur de panneaux photovoltaïques sur le toit. Et puis il dit qu'il a la tête qui tourne, comme il est sur le toit, comme il fait chaud et tout.
Mais il rompt le jeûne dès le matin ou bien c'est non, dans la journée?
Oui, il rompt le jeûne dès le matin, il n'a pas la foi en fait.
Non, mais on n'a pas le droit de faire ça, on ne peut pas faire ça comme ça. Hein. En tout cas, il ne respecte pas la règle islamique. La règle islamique, c'est si on est sédentaire, qu'on n'est pas voyageur, et qu'on n'est pas malade, on doit commencer sa journée. Et dans la journée, si on rencontre des difficultés, des vertiges, des malaises, là on casse parce qu'on se sent mal. Mais on ne peut pas dès le matin, sous prétexte que la journée, je pense que mon programme va faire que je vais être mal à l'aise, que je vais anticiper la rupture de ce jeûne. Non, on ne peut pas faire ça comme ça.
À moins qu'il y ait une maladie incurable avérée.
Non, c'est ce que j'ai dit. Voyage, est-ce qu'il y a voyage? Non, il est là-bas sédentaire. Est-ce qu'il se déplace beaucoup là-bas sur place?
Oui, il se déplace parce qu'on habite à Blagnac. Il part pour la semaine là-bas, en fait. Il part lundi matin, il revient que vendredi soir.
Madame, votre problème de votre mari, est-ce que c'est un problème de voyage ou c'est un problème de conviction et d'attachement au précepte de l'islam?
C'est pas un problème de voyage parce que c'est un problème de... moi, je pense que c'est
d'éducation religieuse. Il a un problème dans son cheminement spirituel qui fait qu'aujourd'hui, il ne jeûne pas.
Voilà, parce que chez les Turcs, ils disent que c'est comme ça. Bon, pour moi, je ne suis pas élevée comme ça parce que je suis marocaine. Mais pour lui, ils disent que non, voilà.
Mais il dit non quoi? C'est-à-dire qu'il dit... Attendez, est-ce qu'il dit que moi, je ne jeûne pas, même si le jeûne est obligatoire? Ou est-ce qu'il dit que non, ça n'est pas obligatoire pour moi?
Non, il ne jeûne pas du tout.
Non, mais madame, j'ai bien compris qu'il ne jeûne pas. Mais ses arguments, c'est quoi? C'est de dire le ramadan n'est pas obligatoire pour moi, du moins. Ou est-ce qu'il dit le ramadan existe, mais moi, je ne veux pas jeûner?
Non, il dit le ramadan existe, mais il dit comme je suis en voyage.
Voilà. Donc c'est pas un problème de foi. C'est elle qui a interprété comme étant un problème de foi. Lui, comme il suit l'école hanafite, et chez les hanafites, la sédentarisation, c'est 15 jours. C'est une des plus élevées en matière de temps de sédentarisation qu'ils considèrent, eux, comme étant encore un état de voyage. C'est-à-dire que chez les hanafites, si tu es 15 jours sédentaire, tu ne l'es pas. C'est-à-dire que tu es encore en voyage. Quand tu te déplaces de chez toi vers un endroit éloigné à plus de 80 km, Masira Tatalat et Ayam, une distance plus supérieure à 3 jours, eh bien, si tu restes sur place même jusqu'à 15 jours, tu es encore en voyage chez l'école hanafite. Alors que chez les malikites, c'est au-delà de 3 jours.
Donc, c'est pas un problème de foi, mais un problème d'école.
Un problème d'école juridique.
Voilà, d'école juridique.
Et madame, elle a interprété comme étant un problème de foi. Donc là, ça se discute.
Pas pour moi, parce que comme je suis à la maison, je l'ai dit, je le force de le faire, parce que j'ai dit hors de question qu'elle reste à la maison, qu'elle ne le fait pas.
Ah oui, parce que même à la maison, il ne veut pas le faire?
Des fois, elle dit non, parce que je filme, parce que j'arrive pas, parce que mes parents me le ont.
Là, d'accord. Là, les hanafites, là-dessus, il ne peut pas argumenter l'école hanafite, là. Parce que les Turcs sont de l'école hanafite. D'accord.
Voilà. Et moi, je lui dis, hors de question que tu restes à la maison et que tu ne le fais pas, je dis, je ne le supporte pas.
Mais madame, excusez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que votre mari fait la prière?
Oui.
Ah, Ajib. Donc, c'est ça qui est incroyable. C'est que le cas contraire est beaucoup plus répandu. Et pourtant, ça existe. Ce n'est pas la première fois qu'on nous élève ce cas de figure. Où est-ce que le musulman prie mais ne jeûne pas? Sans raison, bien sûr. Sans raison valable. Alors que la plupart du temps, c'est plutôt l'inverse. Vous avez énormément de gens qui jeûnent, mais ne prient pas. C'est le cas de figure le plus répandu aujourd'hui en France. Vas-y, Ismaël. Cher Ismaël voudrait vous dire quelque chose.
Alors, moi, j'ai déjà eu des cas avec des personnes qui faisaient la prière et qui ne jeûnaient pas pour la simple et bonne raison qu'en fait, ils trouvaient que c'était trop dur pour eux. Donc après, ça devient psychologiquement, ils considèrent que c'est trop dur. Et donc, en fait, ils n'essayent même pas. D'accord ? Ils se disent, voilà, ils trouvent des excuses. J'ai des examens, je suis malade, je travaille, etc. Donc, moi, de ce que je comprends de votre situation, la première chose qu'il faut essayer de faire, c'est qu'il faut essayer de le déculpabiliser, de lui donner confiance en lui et de lui dire qu'en fait, il peut jeûner, il en a la force et dans les ressources. Surtout si on travaille sur le fait, qu'est-ce que le jeûne ? Bah, le jeûne, c'est on se connecte avec Allah. Donc Allah, il donne la force de jeûner, d'accord ? Parce que c'est vrai que si on compte que sur soi, ça devient compliqué. Et de lui dire que s'il pense qu'il n'y arrive pas, au moins qu'il essaye. Au moins qu'il essaye. Et s'il essaye, et puis effectivement dans son travail il voit que c'est difficile, il rompt son jeûne et à ce moment-là il pourra rattraper mais ses jours de jeûne en hiver.
Dites-lui à votre mari, mais vous avez des enfants de 12 ans qui sont qui pèsent 40 kilos, 35 kilos et qui jeûnent tout le mois du Ramadan, du matin au soir, ils tiennent le coup. Votre mari il pèse combien, il est comment au niveau physique puisqu'il travaille dans les photovoltaïques, il doit être en bonne santé. Il doit être robuste. Ça doit être un mari qui est très robuste, non?
Oui, c'est un Turc, ils sont bien en fait,
ils sont... Ah ben... Si c'est un Turc...
Non, madame, il y a des Turcs qui sont fragiles, il y a des Turcs qui sont en bonne santé. C'est comme dans toutes les races, faut pas dire que les Turcs sont ceci ou cela.
Non,
votre mari, il est comment physiquement? Il est bien, il est en bonne santé?
Oui.
Voilà, il faut pas dire que c'est un Turc. Là, on est dans le racisme, là, on est dans le... Dans les pro... Bah oui, mais faut pas dire que c'est un Turc, parce que comme si que les Turcs, c'était tous des gens d'une catégorie physique particulière. Non, il y a des Turcs en bonne santé, comme il y en a qui sont en moins bonne santé, comme dans toutes les races. Ou dans toutes les ethnies, on va dire ça plutôt.
C'est qu'il y a une expression qui dit fort comme un Turc.
Ouais. Voilà. Où il y a aussi les têtes de Turc. Il y a plein de trucs avec les Turcs, si tu savais.
Il y en a les Turcs.
Et la deuxième question, c'est avant, c'est parce que j'ai une assurance pour la mort ici. En fait, c'est ça que j'ai posé la question. J'ai laissé un message sur le téléphone portable de Abdel Mamoun. Il m'a jamais répondu, mais bon, c'est pas grave.
C'est pas bien.
Non, c'est bien. C'est parce que je vous ai déjà prévenu, mesdames. Écoutez-moi bien tous, je ne peux pas répondre aux SMS ni aux messages téléphoniques. Il faut insister pour essayer de m'avoir au bout du fil. Parce que toute la journée, je suis au téléphone, j'en suis à plus de 300 appels par jour. Comprenez bien que je réponds dans la douche, dans la cuisine, dans le salon, partout, dehors, au volant. Même au volant, je réponds. Même au volant.
C'est pas prudent. Pas bien,
ça, hein. Oui, j'ai pas le choix.
Et déjà, sous la douche, moi je suis assez contre.
Non, pas sous la douche. J'ai dit dans la salle de bain. J'ai pas dit sous la douche. Attends, mélange pas. J'ai dit dans la salle de bain. Des fois même avec la brosse à dents dans la bouche. Bon.
Alors, l'assurance vie. La question de l'assurance vie.
Alors, c'est quoi comme type de contrat que vous avez
fait? C'est pas l'assurance vie. C'est une assurance pour l'assurance. Oui, c'est un obstacle que je paye tous les mois. Tous les mois, je paye quoi? 10 euros, quelque chose comme ça.
Ouais.
Et pour être enterré ici. Au fait, mon mari, il veut pas. Il dit que non. Il dit non. Si tu meurs ou des trucs comme ça, je te ramènerai en force en Turquie. Mais moi, je dis, je veux pas parce que j'ai mes enfants ici.
Attendez, vous êtes turc vous-même?
Non, marocaine.
Je suis marocaine.
Pourquoi il veut vous emmener au Maroc en Turquie alors, si vous êtes
parce
marocaine?
Parce qu'il dit à côté de la famille, parce que c'est une blague musulmane et tout ça. Mais
parce que c'est vrai que dans la tombe, si vous vous retrouvez avec que des Turcs autour de vous...
Avec vue sur le Bosphore.
Vous êtes vu sur le Bosphore en plus?
Ah ouais, bah moi je prends hein, vue sur le Bosphore.
Et le palais Topkapi?
Ah, c'est papa, il faut choisir votre vue.
Non, c'est dans la mer Noire. C'est dans
la mer Noire, en plus, c'est de l'autre côté, Philippe. c'est du côté de l'Arménie, c'est ça?
Inch'Allah.
Madame, où que vous soyez enterré sur terre, ça sera la même chose, vous inquiétez pas. Seuls vos actes pourront contribuer à votre bonheur et à votre félicité dans l'au-delà. Quel que soit l'endroit où vous êtes enterré, n'y changera rien. D'accord, ça c'est. Il faut arrêter de vous prendre la tête avec cette histoire d'endroit où est-ce qu'on est enterré. Maintenant, le problème du contrat d'obsèques, il n'est pas licite. Ce que vous pouvez faire, c'est capitaliser ces 10 euros, les mettre dans un compte, les cumuler, et à la fin, quand vous aurez l'argent équivalent au prix des obsèques, eh bien vous arrêtez de verser. Mais là, c'est quoi ce contrat-là? Vous versez, ça n'a pas de sens. Ouvrez un compte, mettez-y de l'argent petit à petit, et cet argent-là, vous dites à vos proches que c'est pour le jour où je meurs, eh bien, vous utilisez cet argent-là pour m'enterrer. Mais ce genre de contrat d'obsèques n'est pas licite en islam.
Ça, merci Fatna pour vos questions. D'autres appels dans un instant au 01 53 48 3000.
Une question à poser à l'imam, 01 53 48 3000. Beurre FM, 20h, 21h. Al-Oulimam avec Philippe Robichon.
Voilà, c'est au 01 53 48 3000 que vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun et à Ismaël Mounir qui est avec nous ce soir, direction la région parisienne. Et c'est Jenna qui nous appelle. Bonsoir et bienvenue, Jenna.
Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Et je voulais faire un coucou tout particulier à Ismaël Mounir parce que je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert pendant ce ramadan et j'ai vu pas mal de ses vidéos sur YouTube avec mon mari, et on a beaucoup appris, et voilà, et merci pour tout ce qu'il dit. Merci pour tout le travail qu'il a fait, quoi.
D'accord, ben, je suis touché par votre salutation, barakallahu fikoum, et puis ben, à votre service, Inch'Allah.
Merci.
Alors, quelle est votre question, Jenna?
Oui, alors, j'ai une question concernant la prière et le jeûne durant le voyage. Alors, je m'explique. Moi, je voyage énormément dans le sens que mon mari et moi ne vivons pas ensemble pour des raisons professionnelles. Et au début du ramadan, j'ai eu le souci d'avoir à faire un trajet de 200 km. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il fallait que je jeûne ou pas, dans le sens où j'ai beaucoup de mal à conduire quand je suis en état de jeûne. C'est-à-dire que je m'endors au volant.
Ismaël, vas-y, puisque...
Non,
vas-y. Qu'est-ce que c'est, neuf séchés. Ma sœur, à partir du moment où vous dépassez, selon l'avis majoritaire des savants, les 80 km ou 81 km qui constituent les trois jours, la distance parcourue par un cheval ou une monture durant trois jours, qui a été évaluée à 81 km, hein, dans le Madahib, le Jamhour, le Madahib, eh bien, vous êtes en état de voyage dès que vous sortez de votre agglomération. C'est-à-dire, dès que vous sortez de chez vous et que vous quittez la ville dans laquelle vous êtes voyageur. À ce moment-là, vous allez sur votre siège, si vous avez une bouteille d'eau, vous avez de la nourriture, vous avez le droit de manger déjà sur le trajet, avant même de faire les 80 km. Hein, comment ?
Dès que j'ai démarré ma voiture, je peux...
Non, pas démarrer la voiture. Quand vous quittez l'agglomération, hein, on a un hadith de muslim, par exemple, qui dit que le prophète a... s'est déplacé de Farsakhain, donc un Farsakh qui équivaut à près à 3 km, ça fait 6 km. Donc on évalue cela à le fait de sortir de l'agglomération, de là où on habite. À partir du moment où on est sorti, on n'est plus sédentaire, on n'est plus chez soi, on n'est plus dans son environnement. Parce qu'imaginez, vous rentrez dans votre voiture, et oui, on vous appelle, on me dit ah bah, finalement, on ne veut pas que tu voyages, on ne veut pas que tu viennes. Bah, là, vous aurez annulé pour rien. Non, il faut vraiment entamer le voyage, il faut vraiment commencer à partir. Et donc, au moins, sortir de l'agglomération.
Moi, je tiens compte du fait que mon voyage peut être annulé, mais le souci que j'ai, c'est par exemple quand j'ai travaillé toute la journée. En plus, moi, j'ai des journées de travail très longues et qu'ensuite, j'enchaîne sur mon trajet pour rejoindre mon mari. Je suis déjà fatiguée avant même d'avoir pris la route. Et en fait, ce qu'il me faudrait, c'est par exemple un café, quelque chose qui va un peu me... Un coca, de la Red Bull, n'importe quoi. Je ne sais pas, quelque chose qui va me... permettre de rester éveillé durant le voyage.
Pas Coca, pas Red Bull.
Oh, surtout pas Red Bull, en tout cas.
Très mauvais pour la santé. Là, on n'est pas dans Al-Olimam, on est à l'eau docteur.
Moi, je pense que c'est surtout psychologique, ça. Le ramadan, c'est aussi un acte d'adoration qu'on appelle des azaim, des résolutions. Ce n'est pas une facilité, le jeûne. C'est bien entendu que c'était une démarche d'endurance. Quelles que soient les circonstances... Les Sahaba qui voyageaient dans le désert en plein ramadan et qui allaient même gagner des batailles de Badr, de Fath Mekka et autres, qui voyageaient en plein désert, comment ils faisaient eux? C'était des Superman? C'était des.
Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, effectivement, Dieu va me faciliter mon voyage, ou il faut que je respecte les choses comme elles doivent l'être. Mais le souci que j'ai, c'est que moi, sur la route, je ne suis pas toute seule, en fait.
Oui, mais d'accord, mais qui dit que la nourriture ou ce café-là va forcément améliorer votre état de nourriture? Parce que déjà, la nourriture, la digestion, ça donne envie de dormir. Moi souvent, quand je mange la journée, j'ai envie de dormir après. Hein, j'ai souvent envie de faire une petite sieste.
Temps, comme je vous ai dit, moi, je ne parle pas de nourriture, je parle vraiment de choses qui vont me permettre. C'est-à-dire, il faut que j'ouvre les fenêtres... Il faut, comme je vous ai dit, de la caféine, quelque chose.
En tout cas, vous avez, au nom de cette dérogation divine, qui a été répétée à deux reprises dans le Coran, « Faman kana minkum maridan aw ala safarin » et dans l'autre verset, « Waman kana maridan aw ala safarin »« Fa'iddatu min ayyamin ukhra » et il reprend exactement la même règle qui est que vous pouvez rompre le jeûne et la journée à une date ultérieure. C'est Dieu qui le dit. C'est même pas le prophète Mohammed. Ou est-ce qu'on aurait un shir qui nous dirait ça c'est un hadith daif? Non, ça c'est Coran. Le Coran, Dieu là, il dit clairement, celui qui est en voyage, il a le droit de rompre. Donc si vous êtes en voyage, vous êtes en déplacement à une distance supérieure à 80 km, eh bien vous êtes voyageur. Maintenant, il y a aussi la niya du voyage. Il faut être dans une niya de voyage. Quelqu'un qui part tous les matins pour aller au travail et qui l'aller-retour dépasse les 80 km, est-ce qu'il est en voyage? Je ne le pense pas.
Bah, moi, on m'a fait la réflexion en me disant, tu rentres chez ton mari, donc du coup, tu n'es pas en voyage.
Oui, mais le trajet pour aller chez mon mari.
Oui.
Et c'est tous les jours comme ça ou bien c'est comment ça se passe? J'ai pas compris. Parce que vous nous avez rien dit. Vous êtes resté dans le flou sur cette histoire de domiciliation séparée, etc. J'ai pas très bien compris.
C'est compliqué dans le sens où moi je travaille à Paris, lui il travaille en Normandie. Donc du coup, si vous voulez,
Paris Normandie, Normandie où ça? Dans Rouen, c'est ça?
Un peu plus loin encore. On est au bord de la mer.
Ah, au bord de la mer. Eh bien, écoutez, en tout cas, sachez que vous êtes en voyage et vous avez le droit, si vous pensez ne pas être en mesure de continuer votre parcours, vous avez le droit de casser. Ça, il n'y a aucun problème. Le prophète dit « Laysa minal birri siyam fi safar ».
Par contre, il y a une chose, c'est que si c'est votre mari, à partir du moment où vous rentrez chez votre mari, vous n'êtes plus voyageuse.
On parle du trajet.
Mais sur le trajet,
Moussafir,
Sa'iran, Moussafir, Nazilan. Il y a deux, les fuqaha, ils distinguent deux types de voyageurs. Celui qui est sur la route. Vous êtes sur la route, vous pouvez réduire les prières, vous pouvez les regrouper et vous pouvez rompre votre jeûne. À partir du moment où vous arrivez chez votre mari, vous n'êtes plus voyageuse.
Voilà, Jenna, ce qu'on pouvait vous dire. Alors, nous allons à Colombes. C'est Nawel qui nous appelle de Colombes. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Nawel.
Allô, salam alaikum, merci beaucoup.
Wa alaikum salam, marhaban ya Nawel.
Merci. Bah, écoutez, c'est pour vous la question. Je voulais savoir, en fait, parce que je sais pas si c'est une innovation ou pas. Enfin, je parle du vernis à ongles, en fait, entre guillemets, halal. Alors, j'en ai acheté. Et ils disent water imperméable, halal. Est-ce que c'est licite pour la prière?
Est-ce qu'il est halal? Il a été égorgé conformément aux préceptes de l'islam?
Voilà, c'est ça.
Ou est-ce qu'il a été tué avec un matador, ce...
Mais
pourquoi vous dites halal?
Il est marqué sur la boîte.
Non, en fait, c'est parce que c'est un qui laisse passer l'eau pour les ablutions.
J'avais compris. J'avais compris. C'était juste. J'ironisais avec la dame.
Imperméable, en fait.
Mais voilà. Donc, déjà, arrêtons de faire peur aux gens autour de nous en utilisant ce terme halal dans tout et dans n'importe quoi. Même du leben halal, du poisson halal.
Et puis même là aussi,
alors que le poisson il est halal de toute façon.
La question de la bid'a aussi là, l'innovation. Alors, pour le vernis à l'ongle,
elle a utilisé le terme innovation. Ah. Alors, on dit c'est une nouveauté, pas une innovation. Innovation, c'est quand on parle d'adoration, on parle de bid'a ou d'innovation. Mais là, on parle de ibtida, c'est-à-dire de novation ou de créativité dans la manière d'embellir une femme. Et donc, c'est pas interdit le vernis, c'est pas haram le vernis. Une femme a le droit de porter du vernis pour s'embellir. Attendez, je parle de s'embellir. Dans l'absolu. Maintenant, est-ce qu'effectivement ça empêche l'accès de l'eau à l'ongle et qui est une partie importante et indispensable pour valider vos ablutions? Oui, la réponse est oui. Effectivement, là il y a un souci, le vernis va faire obstacle. Donc on doit enlever le vernis pour pouvoir faire ses ablutions. Mais le vernis en tant que tel, il n'y a rien qui l'interdit. Je dirais même au contraire, les femmes sont invitées à être particulièrement coquettes pour leur mari et s'embellir pour... notamment quand il y a des fêtes, quand il y a la famille, etc.
Voilà, ouais.
Il n'est pas du tout interdit pour une femme de se faire jolie, même dehors. Moi, je ne suis pas contre même le fait de porter du vernis à ongles extérieur. Je ne vois pas pourquoi, à l'époque du prophète, les femmes portaient du henné dans la main, qui couvrait y compris les ongles, donc ça colorait les ongles. Et pourquoi aujourd'hui, on ne pourrait pas porter du vernis à ongles à l'extérieur? Moi, je ne suis pas du tout contre ce vernis que les femmes portent. Et maintenant, s'il existe un vernis qui laisse passer l'eau à travers... et donc, il laisse passer l'eau et permet d'accéder l'eau à l'ongle, eh ben, tant mieux. Comme ça, on n'a même pas à l'enlever pour faire les ablutions.
Ah, d'accord, ouais.
C'est tant mieux.
Parce que moi, ça m'embête quoi, d'en mettre et je me dis, mon odo, il passe pas.
Attendez, vous parlez de votre vernis qui est perméable, qui laisse passer l'eau?
Ouais, soi-disant.
Ah, bah, s'il est confirmé qu'il laisse passer l'eau, vous n'avez pas besoin de l'enlever, en effet. Ça serait comme un tissu que vous avez mis et que vous allez mouiller et qui va laisser passer l'eau à travers. Un tissu comme une matière qui est perméable et qui laisse passer l'eau. Et donc, effectivement, là, vos ablutions sont valables. Il n'y a aucun problème.
Ah, il y a marqué water perméable, justement.
Water perméable, eh ben, c'est parfait. Water, ah, moi, pour moi, water perméable, il n'y a pas de problème, faites vos ablutions avec.
Moi, je connais quelques, on va dire, théologiens qui se sont penchés sur la question et qui ont rendu une fatwa pour dire que c'était valable, les ablutions étaient valables avec ça.
Avec ces nouveaux produits.
C'est quelle marque ?
C'est anglais. Ça vient de Londres. Je l'ai acheté sur un site internet, en fait.
Non, je ne connais pas la marque anglaise.
Non, vous ne l'avez pas essayé.
Moi, pour moi, c'est seul critère. J'ai un seul critère. Water perméable, c'est-à-dire perméable à l'eau, c'est valable. On peut faire ses ablutions avec.
Mais je crois que votre anglais s'améliore de jour en jour, Imad.
Yes, I can speak very well English.
Water perméable, rapport au vernis, on est bien là.
I'm a Moroccan. Non, ça c'est qui ça?
I'm American.
C'est Smaïl Mounir qui est Moroccan.
Je pense que chez Sephora aux Champs-Élysées, vous allez avoir un petit rayon halal. Voilà, demandez votre démonstrateur Abdelali Mamoun. Spécialiste en vernis à l'alpha.
Surtout que j'ai pas des ongles.
Non, ça c'est. Ben on vous fera une petite manucure French.
Ah ouais, faudra laisser d'abord pousser mes ongles parce que je les laisse pas trop.
Bien, voilà Nawel ce que l'imam pouvait dire sur votre question. Dans un instant, on retrouve la chronique d'Ismaël Mounir qui est avec nous, beauté et sagesse de la voix prophétique.
Retrouvez Allô l'imam tous les jours de 20h à 21h sur Beurre FM.
Le Secours Islamique France vous souhaite un ramadan solidaire. Le Secours Islamique France, l'expertise au service de votre générosité.